Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Le président Trump réclame des dirigeants iraniens des dédommagements financiers pour les morts causées lors des conflits au Liban, au Yémen, mais aussi à Gaza. Un pays du Moyen-Orient aurait proposé de conclure un accord avec Israël pour mieux l'attaquer à l'avenir.
La Colombie était frappée par un puissant séisme, mais cela n'empêche pas son gouvernement de devenir le deuxième pays au monde à reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Et enfin, une nouvelle vague de chaleur va traverser la Belgique, et ce, dès demain mercredi. Le président américain Donald Trump l'assure, l'Iran doit payer pour les morts causées au Liban, en Syrie, au Yémen et à Gaza, Jonathan.
La République islamique devrait également être tenue responsable des dommages et des morts causés aux populations du Liban, de la Syrie, du Yémen et de Gaza, affirmait Donald Trump dans un message posté sur son réseau social. Une déclaration qui est intervenue après sa demande adressée à ses négociateurs d'exiger de voir les dirigeants iraniens verser des dédommagements financiers pour les civils et soldats américains tués depuis 47 ans. Je constate que des représentants de la République islamique d'Iran réclament des compensations pour les dommages subis lors du conflit militaire des 5 derniers mois, alors que cela n'a jamais été évoqué dans aucune de nos négociations ni réunions. Mais c'est une idée intéressante car maintenant je réclame également des réparations à l'Iran pour toutes les personnes qu'ils ont tuées et grièvement blessées, a déclaré le chef d'État américain. Donald Trump a en outre assuré que l'armée américaine avait achevé le retrait de toutes les mines disposées dans le détroit d'Ormuz. Le détroit est complètement ouvert à la circulation, seule la marine américaine contrôle le détroit, a déclaré le président des États-Unis.
Et l'Iran répond aux déclarations du président américain qui affirmait dimanche que tout se terminerait bien comme dans une partie d'échecs.
Que les lumières soient éteintes ou allumées, les Iraniens ont prouvé qu'ils étaient des joueurs d'échecs professionnels, a déclaré Ismail Baghaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Un porte-parole de la diplomatie iranienne qui a en outre indiqué que tant que le blocus naval américain se poursuivra, tant que les autres violations commises par les États-Unis se poursuivront, les conditions nécessaires pour lever le blocus sur le détroit d'Ormuz ne seront pas réunies.
Et puis, on l'a appris très récemment, pour ne pas dire tout de suite, le président Trump a été exfiltré de Turquie le mois dernier après son apparition au sommet de l'OTAN dans une opération secrète pour échapper à une tentative d'assassinat préparée par la République islamique.
Selon le Washington Post, le président américain Donald Trump a quitté secrètement la Turquie le mois dernier à bord d'un avion plus petit en raison d'une menace d'assassinat de la part de l'Iran. Selon un haut responsable américain, le président des États-Unis a dû monter dans un conteneur de restauration pour tromper les agents iraniens qu'il a conduit jusqu'à un avion C-32A qu'il a emmené en Grande-Bretagne alors que la presse l'attendait devant Air Force One. La menace iranienne avait déjà été rapportée que Donald Trump n'avait pas quitté la Turquie à bord du nouveau Boeing 747-8 offert aux États-Unis par le Qatar qu'il avait utilisé pour rentrer dans le pays. C'est l'information donc qui a été transmise par nos confrères du Washington Post.
Et puis on reste dans le conflit américano-iranien avec le guide suprême Mojtaba Khamenei qui a procédé à 6 nouvelles nominations au sein des gardiens de la Révolution.
Ainsi, le major-général pilote Ali Abdollahi est nommé au poste de chef d'état-major des forces armées. Le brigadier-général Ahmad Wahidi est maintenu dans ses fonctions de commandant en chef des gardiens de la révolution islamique. Par ailleurs, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré à la télévision d'État que sa récente rencontre avec le guide suprême Mojtaba Khamenei avait duré 7 heures. J'ai discuté avec lui de tous les problèmes du pays, notamment des moyens de subsistance de la population, de l'état du marché, de l'emploi, du logement, des sanctions, de notre fermeté, du soutien du peuple, de l'unité et de la cohésion, a-t-il affirmé.
Et un pays de la région aurait proposé de conclure un accord avec Israël, et ce, pour mieux l'attaquer ensuite.
Selon la radio militaire israélienne Rechet Bet, des responsables d'un pays de la région ont ainsi conseillé à ceux d'un autre pays de faire preuve de souplesse tactique et de conclure un accord avec Israël pour mieux, je cite, l'endormir tout en se préparant en coulisses à un conflit plus important contre l'État hébreu. Lors d'une conversation entre les différentes parties, les responsables de ce pays de la région ont confié qu'il leur fallait conclure un accord afin de le violer ultérieurement tout en se préparant à la guerre. L'ensemble de ces informations dresse un tableau inquiétant des intentions de ces pays de la région. L'identité du pays en question est soumise à la censure militaire en Israël.
L'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, et les États-Unis s'engagent à retirer toutes les matières nucléaires d'un site clandestin situé en Syrie.
Des responsables israéliens et américains ont confirmé l'information au site d'information Axios. L'administration Trump et l'AIEA ont œuvré activement à la conclusion de cet accord diplomatique visant à sécuriser ces matières nucléaires et à prévenir une escalade du conflit qui aurait pu impliquer Israël, la Syrie et potentiellement même la Turquie, compte tenu du caractère sensible du site. Selon certaines sources, le régime syrien de Bachar el-Assad avait développé un programme nucléaire secret centré sur le réacteur clandestin d'Al-Kibar. Après le bombardement israélien du réacteur en 2007, le programme nucléaire syrien a été en grande partie détruit. Cependant, plusieurs sites de recherche, de développement et de stockage subsistaient malgré leur inactivité. Ces centrales, appelées Site 99, sont surveillées de près par Israël depuis environ 2 ans. Selon 2 responsables israéliens, le régime d'Assad y avait entreposé des matières nucléaires provenant du projet de réacteur d'Al-Kibar.
Et puis Israël a informé les États-Unis qu'il poursuivra ses éliminations ciblées dans la bande de Gaza contre les terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre.
Selon la chaîne 13 en Israël, le gouvernement israélien serait toutefois disposé à discuter d'une suspension des éliminations ciblées contre les terroristes non impliqués dans les attentats du 7 octobre. Or, depuis plusieurs jours, Tsahal a mis fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza pour laisser une chance de réussite aux négociations, affirme-t-on au sein des autorités du pays. La semaine dernière, quelque chose d'important a changé dans la façon de penser. Nous essayons autant que possible d'éviter les frictions sur la ligne jaune. Nos hauts gradés ne veulent pas que nous éliminions qui que ce soit, affirment plusieurs soldats positionnés le long de la ligne jaune qui sépare en deux la bande de Gaza, interrogé par la 12e chaîne de télévision en Israël. Le président Trump a indiqué préparer une réponse suite au refus par Israël de soutenir le plan en 15 points du Conseil de la paix censé aboutir au désarmement du Hamas.
Le chef du CENTCOM, Brad Cooper, et le responsable de l'armée israélienne, Eyal Zamir, insistent sur la période cruciale pour la région et pour Israël.
Notre mission est d'agir sur la réalité et non de la subir en prenant l'initiative tactique et opérationnelle, a déclaré Eyal Zamir au terme de sa rencontre avec le chef du CENTCOM. Le chef d'état-major de Tsahal affirme par ailleurs que les négociations menées actuellement sur les fronts iraniens, libanais et gazaouis sont toutes le fruit, je cite, des succès historiques de Tsahal sur le champ de bataille. Nous devons veiller à optimiser les succès remportés sur ce champ de bataille. Nous sommes bien préparés en matière de défense et prêts à reprendre immédiatement le combat à pleine puissance, a déclaré le lieutenant général Eyal Zamir.
Après les États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump, le nouveau gouvernement colombien reconnaît la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan.
Compte tenu de l'instabilité régionale persistante au Moyen-Orient et considérant l'importance stratégique du plateau du Golan pour la sécurité d'Israël, le gouvernement colombien reconnaît la souveraineté israélienne sur ce territoire, ainsi que le droit d'Israël à se protéger contre les menaces extérieures, a écrit le ministère colombien des Affaires étrangères dans un communiqué. Dans ce contexte de sécurité régionale, la Colombie reconnaît que le maintien du contrôle et de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan est un élément essentiel de sa défense nationale et de sa capacité à protéger, à garantir la sécurité de ses citoyens, ont déclaré les bureaux de la diplomatie à Bogota, une décision saluée par le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem en 2019. Pour rappel, le président américain Donald Trump avait rompu avec des décennies de politique américaine en signant une proclamation reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Et on reste en Colombie où un séisme d'une puissance de 7,4 sur l'échelle de Richter a secoué hier le pays.
Ce tremblement de terre s'est produit en tout début de matinée hier en Colombie à une centaine de kilomètres de profondeur à l'ouest du pays. Il a été ressenti jusque dans la capitale, Bogota, selon un bilan encore tout provisoire. Plus de 130 personnes ont perdu la vie et l'épicentre du tremblement de terre était situé près de San José del Palmar dans le département du Chocó Sur, situé dans le littoral de l'océan Pacifique. La gouverneure du Chocó a écrit sur le réseau social X qu'il y avait des blessés et des dégâts graves sur les édifices religieux, notamment dans la ville de Quibdó, chef-lieu de ce département plutôt pauvre. Le maire de Cali, troisième ville de Colombie, a également fait état de dommages importants qui sont en cours d'évaluation à l'aide de drones. Selon lui, au moins 20 structures se seraient effondrées et des personnes y seraient coincées. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Les autorités israéliennes ont proposé immédiatement leur aide pour soutenir les secours locaux dans leurs opérations de sauvetage.
Et de leur côté, les autorités belges appellent les ressortissants présents sur place à s'enregistrer.
La Belgique suit la situation en Colombie de près, a fait savoir hier le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost sur X. Le centre de crise à Bruxelles est mobilisé. L'ambassade belge à Bogota se tient prête à assister les compatriotes qui en ont besoin, a précisé le chef de la diplomatie. Les services des Affaires étrangères invitent ainsi tous les Belges présents dans la zone touchée à s'enregistrer sur Travelers Online afin que leur service puisse les joindre. Maxime Prévost a également adressé ses pensées au peuple colombien et aux familles qui attendent des nouvelles de leurs proches, je cite, en cas d'activation du mécanisme européen de protection civile, la Belgique sera prête, de même si la réponse humanitaire des Nations Unies se met en place, a conclu le ministre.
Direction les Pays-Bas à présent, un homme portant un maillot du Maroc floqué October 7 fait polémique aux Pays-Bas.
Amsterdam, un homme photographié dans un supermarché Albert Heijn avec un t-shirt portant l'inscription October 7 a provoqué une vive polémique et a fait réagir le chef du parti pour la liberté Geert Wilders qui a décidé de porter l'affaire sur le terrain politique. Le leader du PVV a ainsi adressé une série de 10 questions au gouvernement néerlandais. Il veut notamment savoir si l'homme a été identifié et si le fait d'arborer publiquement une telle référence peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Pour le représentant néerlandais, le message affiché sur le vêtement ne relève pas d'une simple provocation. Il y voit une glorification de l'attaque du Hamas. Le dirigeant néerlandais demande également que soient étudiées des mesures plus lourdes si l'individu possède une seconde nationalité, allant jusqu'à évoquer une éventuelle déchéance de la nationalité néerlandaise et son expulsion du pays. À ce stade, l'identité de l'homme et ses motivations ne sont pas connues. Les autorités néerlandaises n'ont pas annoncé non plus l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre.
Chez nous en Belgique, un nouvel épisode de chaleur exceptionnel va commencer dès demain.
Après un début de semaine relativement supportable, la chaleur va progressivement s'installer à partir de mercredi. En cause, un puissant anticyclone qui va se repositionner sur l'Europe centrale et favoriser une remontée d'air très chaud en provenance du sud de la France. Les conditions météo vont être favorables à des températures proches des records pour cette période de l'année. L'IRM prévoit jusqu'à 34 degrés ce jeudi et 35 degrés ce vendredi. Il est presque certain qu'on va observer deux journées avec des records de chaleur, a indiqué Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.
Retour en Israël à présent, le Likoud réserve une place sur sa liste à un entrepreneur high-tech qui a traité Donald Trump de, je cite, « salaud ».
Son nom, Oren Dobronsky, le Likoud le décrit dans son communiqué comme un homme d'affaires de droite prospère et l'une des principales figures de la haute technologie israélienne, je cite. Le parti de droite précise aussi qu'il pilotera les initiatives liées à l'intelligence artificielle dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la santé et dans d'autres domaines. Certaines sources au sein du Likoud parlent même d'un fauteuil de ministre pour cet Oren Dobronsky. En outre, au mois de juin dernier, l'homme d'affaires israélien avait qualifié le président américain Donald Trump de salaud moralement corrompu en lui reprochant de ne pas avoir inclus Israël dans les négociations avec l'Iran. Dans un autre message posté sur le réseau social X, il avait accusé le chef d'État américain et son équipe d'être, je cite, des imbéciles responsables d'un échec colossal contre l'Iran, pire que le fiasco de l'ancien président Joe Biden en Afghanistan. Il occupera la 11e place au sein de la prochaine liste électorale du Likoud, alors que cette nuit, le Premier ministre Netanyahou a déposé une demande auprès des autorités juridiques de son parti pour intégrer dans la prochaine liste électorale, outre le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, Chaim Katz, mais aussi Israël Katz, le ministre de la Défense, afin qu'il ne s'occupe, je cite, de la défense de l'État d'Israël et non de politique en cette période de guerre, précise le communiqué du Likoud.
Et enfin, on termine ce journal avec l'acquisition de la société israélienne BioCatch par la société de cartes bancaires internationales Visa.
De l'opération de 2,4 milliards de dollars pour racheter cette société israélienne spécialisée dans la protection contre la fraude numérique. BioCatch a levé à ce jour 115 millions de dollars auprès de fonds de capital risque et d'investisseurs et emploie aujourd'hui 400 personnes. Il s'agit de l'une des plus importantes transactions jamais réalisées dans le secteur technologique israélien. C'est la deuxième fois que BioCatch est vendu, mais cette fois-ci, la totalité des actions de la société a été cédée. En mars dernier, le fonds de capital investissement Permira a pris le contrôle de l'entreprise pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars avec l'aide des fonds Robin et Winda.